Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, condamné, victime, un dialogue possible. Une série de Johanna Bedeau, réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a la question du pardon et le vide qui s'ouvre après un procès. Ce moment où l'on se demande comment vivre après, avec les idées noires, la peur, l'incompréhension et les questions sans réponse. Il y a aussi l'espoir de trouver une piste pour aller au-delà de la logique punitive, cette idée de réparer les torts et de renouer avec des pratiques de compensation, des rituels, voire même le souvenir de Saint-Louis sous son chêne. Mais après les idéaux, il y a le réel, le crime, la douleur, la terreur et l'impulsion qui soudain a laissé la place à des actes qui nous dépassent, à cette inconcevable irruption de la violence qui pourtant fait partie de la vie, comme en fait partie le désir de se venger, et tout ça, forcément, n'incite pas à se parler. Alors pour commencer, les personnages. Une femme dont on a tué l'ex-mari, une autre qui ne peut que se méfier, un enfant qui a tout vu, des hommes qui ont commis l'irréparable, une animatrice qui marche sur des œufs et des détenus qui regrettent. Ensuite, le décor. La centrale de Poissy, des poignées de main, des sas, des portiques, des tremblements, des vies dos au mur, des destins liés par un acte impensable, des homicides volontaires, d'étranges effets de miroir, la culpabilité qui pèse et un tribunal comme un théâtre. Aujourd'hui, deuxième épisode, on remonte dans le temps, on retient sa respiration et on y va.
It is at moments after I have dreamed of the rare entertainment of your eyes.
Bonjour.
On a passé beaucoup de temps la première fois à choisir nos vêtements le dimanche soir, parce que c'était le lundi à Poissy, en sachant que c'était 3 hommes. Donc le look qu'on allait avoir, et puis ceci, puis cela, puis bon.
Réparer ce qui reste, par Johanna Bedeau et Angélique Thibault.
Ça doit être produit dans les
mêmes. Ça y est, il coule, coule.
Je sais pas.
Ouais, mais fais-le passer avant, s'il te plaît. Allez-y, c'est bon.
C'est une expérience inédite à laquelle nous allons assister. Des personnes détenues et des personnes victimes vont se rencontrer à la maison centrale de Poissy. Ils ne se connaissent pas, n'ont pas de lien direct, mais ont commis ou subi le même type de fait. Une expérience rare, parce qu'il n'est pas courant que des condamnés à de lourdes peines puissent parler sans témoin. Rare que des condamnés s'adressent directement à des victimes. En l'absence de tout enjeu judiciaire et après condamnation, ils se rencontrent pour 6 séances, au rythme d'une fois par semaine pendant plus de 2 mois, encadré par des médiateurs et des membres de la communauté.
Donne-moi 2 autres, s'il te plaît.
C'est à titre exceptionnel que nous avons été autorisés à poser nos micros autour de leur table.
Bonjour.
Bonjour.
Il n'y avait aucun détenu. Quand on rentre dans la cour, on franchit deux sas, on laisse sa carte d'identité, on laisse toutes ces affaires qui peuvent sonner, on rentre dans un autre sas ou on rentre carrément dans la prison. Là, il y a des gardes avec des trousseaux de clés énormes qui nous font passer dans un portique. Alors, c'est un peu comme à l'aéroport, mais après, on se rend compte que c'est pas du tout comme à l'aéroport, parce qu'après, on rentre dans un endroit qui est très, très silencieux, où il n'y a personne, où il n'y a que nous, accompagnés d'un gardien de prison. On voit rien, on n'entend rien. On voit qu'il y a des grands murs. Les fenêtres sont grillagées, tout est quadrillé. Il n'y a jamais un moyen de mettre une main ou un pied dehors. Et là, on sent qu'on est enfermé et on sent concrètement où on est. C'est pesant, c'est sinistre. On se dit qu'on est rudement bien de pouvoir ressortir tout à l'heure. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'on n'entend pas, on n'entend rien. On n'entend pas de détenus, on a l'impression qu'il n'y a personne.
It is a moment after I have dreamed.
Le parloir à tous les postes. Le parloir à tous les postes, il faudrait la personne détenue pour le parloir à son père. Parloir avocat à tous les postes. Parloir avocat à tous les postes. Il faudrait les personnes détenues suivantes. Attendu au parloir d'avocat.
Avis n'est pas bien reçu, on te fait parvenir.
Je te remercie.
Le fonctionnement de la détention fait qu'il faut qu'on soit là pour qu'il ne soit pas tout seul dans la
pièce. Ouais,
pas les laisser tout seul dans la place. Donc c'est à partir du moment où on arrive qu'il les appelle.
Parlons à tous les postes. Parlons à tous les postes.
Cellules, qu'ils les fassent descendre, qu'ils arrivent jusqu'à.
Et attendu au parloir, s'il vous plaît.
Il y aura Pascal dans le vocal, qui a vu sur ce qui se passe. Et il y a le surveillant des parloirs qui est à l'embout.
Il est rentré le premier détenu, un vieux monsieur de mon âge, avec une canne et des lunettes noires, qui tout de suite nous a serré la main, très à l'aise. Je ne sais pas s'il était plus à l'aise que nous, mais il nous a serré la main. Donc du coup, on lui a serré la main. Et puis il est arrivé le deuxième qui nous a serré la main, il est arrivé le troisième qui nous a serré la main. Les deux autres, très jeunes, très beaux, qui nous ont pas souri, mais presque. Et instinctivement, tous les trois, on s'est assis, on s'est arrangé pour être séparés des détenus. Comme s'ils étaient dangereux ou si on en avait peur, on a laissé trois places, les trois places les plus loin possibles en face, en étant encadrés par le personnel de l'INAVEM. Donc déjà là, on sentait qu'on n'était pas bien tous les trois. Bon, Nadège, l'animatrice, elle a un peu dirigé le débat pour que. Mais c'était calme, c'était serein. On n'avait pas peur, Elle faisait très très attention, elle regarde. On était vraiment en grande confiance, en sécurité. C'est pas ça, c'est que moi, j'ai été atterrée. J'ai plus entendu les deux autres détenus. J'ai pas entendu ce qu'ils m'ont raconté, j'ai rien compris à ce qu'ils ont raconté. J'étais atterrée, parce qu'il a raconté ça comme ça. Comme je vous parle là.
Maintenant qu'on a donné les informations principales, on va essayer de commencer le plus rapidement possible. Je voudrais quand même rappeler, même si c'est rapidement, parce que je vous l'ai tous dit d'abord séparément, on l'a redit la semaine dernière, mais les règles essentielles de ces rencontres. La confidentialité, tout d'abord. Tout ce qui est dit pendant les rencontres ne doit absolument pas sortir des rencontres. C'est essentiel pour garantir la sécurité de chacun des participants. Je parle de sécurité aussi bien physique que morale. Et c'est la règle de base de ce type de rencontre. C'est aussi le respect de chacun. On a le droit d'exprimer des sentiments qui peuvent être violents, mais on les exprime dans le respect de la personne à qui on les dit, c'est-à-dire qu'on parle de soi. Toujours, et on dit ce qu'on ressent soi. La dernière règle, bien évidemment, c'est le fait d'être sincère. On ne vous demande pas forcément de tout dire immédiatement si vous vous en sentez pas capable. Chacun a ses limites. Ça peut être compliqué de faire le récit de ce qui est arrivé. Ça peut être compliqué de livrer un certain nombre d'actes ou de sentiments comme ça à des gens qu'on ne connaît pas encore bien. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas mentir.
Première rencontre. Petit changement d'organisation imposé par la détention. Finalement, nous n'aurons pas de table haute, mais seulement la table basse. Cela m'ennuie, mais les victimes ne semblent pas plus stressées par la nouvelle qu'elles ne le sont déjà par tout le reste. L'installation se passe bien. Les détenus semblent encore plus apeurés que les victimes. L'un d'eux tremble visiblement. Cette tension durera jusqu'aux premières prises de parole. Nous présentons le principe de l'objet de parole en laissant le choix entre le bâton de parole présenté par Bob, le représentant de la société civile, la plume de colombe que je présente comme destinée à nous permettre d'écrire ensemble une histoire qui nous achemine vers la paix, et le galet dont je dis qu'il permettra d'apporter une pierre à l'édifice que nous construirons ensemble.
L'organisation de cette séance.
Le galet ne remporte qu'un seul suffrage, la plume tous les autres. Ce sera donc la plume et nous utiliserons peut-être le galet une fois.
Il est 3 heures. Il faut qu'on arrête à 17 heures.
Ce que j'avais vécu, moi, ce qu'on m'a fait moi, j'avais l'impression que c'était pas grave. Et puis, en arrivant avec les gens de l'INAVEM à la prison de Poissy, là, je me suis rendu compte que c'était important ce qui m'était arrivé. Ce que mon agresseur avait fait, c'était grave. Mais pendant 7 ans, donc, j'ai complètement oublié en me disant que c'était pas grave. J'ai pas vraiment oublié, mais j'ai déménagé, je ne suis plus jamais repassée dans cette rue-là, j'ai complètement... en essayant de jamais y penser, mais j'y pensais tout le temps, puisque je me réveillais en tombant. Toutes les nuits, je tombais. Et je n'avais jamais parlé à personne. Et tous les transports que je faisais, je me mettais toujours dos au mur. Partout où j'allais, je me mettais toujours dos au mur. J'avais tout le temps peur qu'il y ait quelqu'un dans mon dos. Donc déjà ça, je ne m'en rendais pas compte. Mais c'est déjà ça, c'est important, c'est grave.
À 17h, donc on arrête. Moi, 5. Et entre 17h et 17h30, chaque demi-groupe se retrouve ensemble. Donc moi, je resterai dans une petite salle à côté avec Yannick et les détenus. Et Marguerite et Mathias remonteront dans la salle du SPIP avec les victimes pour faire un petit peu le sas de transition avant que chacun rentre chez soi et se retrouve seul après cette rencontre.
Moi, je me sens bien. Je dois être à peu près la seule. Très clairement. Tout le monde est complètement terrorisé le premier jour, mais quand je dis terrorisé, c'est au point que j'ai déjà vu des détenus qui physiquement tremblaient, tellement ils étaient en panique de ce qui allait se passer ce jour-là.
Toutes les personnes à qui j'ai commencé à essayer de le dire, elles ont complètement refusé. Elles ont changé de conversation. Une me dit « Mais t'es folle, tu vas pas aller voir des détenus ?» Après ce qu'on t'a fait, mon mari, il a eu peur. Je l'ai pas raconté, j'ai arrêté. Les enfants ne le savent pas. Je veux pas leur cacher. J'ai jamais voulu leur cacher. Mais je trouve que c'est dur pour eux. Ils sont dans un milieu tellement protégé. Ils sont tellement naïfs. Ils sont tellement heureux. Donc j'ai mon médecin généraliste non plus. Parce que je suis quelqu'un qui dit jamais rien à personne.
Mais pourquoi vous dites pas ?
Parce que je dis rien à personne. Parce que je n'ai aucun problème. Parce que j'étais... J'ai eu une enfance heureuse, j'ai été fonctionnaire, j'étais...
C'est vrai qu'à première vue, quand on dit ça, on a envie de dire « Est-ce que vous leur fournissez les couteaux avec pour qu'ils puissent s'entretuer ?» Enfin, bon, voilà. C'est juste que, quand on y réfléchit, c'est quand même les gens qui ont le plus de choses à se dire. Parce que précisément, il y a quand même un acte, justement, qui est l'acte le plus important de leur vie, qui les lie.
Donc, comme tout le monde le sait, je m'appelle Nadège. J'ai 52 ans. Je suis maman de 2 enfants et grand-mère de 2 petits-enfants. Je travaille depuis une 20aine d'années dans un service d'aide aux victimes. Voilà.
Donc moi, José, 40 ans, et donc j'étais chef d'entreprise, et j'ai été condamné pour homicide volontaire, et ça fait pour 10 années que je suis en prison. Et sinon, voilà, donc je suis marié, j'ai une fille qui a 14 ans. Voilà.
Christophe, je vais bientôt avoir 45 ans, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis incarcéré pour une affaire de mœurs. Et ça, dehors, je travaillais dans le bâtiment avant. J'ai une fille qui est maintenant un peu plus de 20 ans.
Moi, c'est Stéphane, j'ai 45 ans. Je suis incarcéré pour homicide volontaire avec préméditation. Et ça fait 16 ans exactement que je suis incarcéré et je suis en plein aménagement de peine au jour d'aujourd'hui. Et j'ai fait un énorme parcours depuis mon incarcération psychologique. C'est moi qui ai voulu faire pour comprendre mon passage à l'acte et aussi comprendre la famille de ma victime.
Voilà, c'était passé. Bon. Bonjour, moi je m'appelle Stéphanie, j'ai bientôt 40 ans et je suis maman d'un petit garçon de 14 ans, enfin un adolescent maintenant, c'est plus un petit. Et en fait, il y a 10 ans de ça, son papa était victime d'un homicide, prémédité probablement. C'était très long, je connais l'agresseur. C'était un proche de sa famille. Et donc ça déjà, c'est un premier choc. Et puis la deuxième, le procès aussi. Donc arrivé presque 8 ans après. Et pareil, je l'ai très mal vécu. Et puis après, j'ai eu ce sentiment d'être libérée. Et en fait, là, ça fait presque 3 ans et pas du tout. Je pense que j'ai pas fait le deuil. Rien. Trop de questions. C'est tout pour le moment.
Est-ce que ça soulève des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de réagir à ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a...
J'ai une question.
Pour vous, le procès, est-ce que vous avez l'impression que ça vous a donné des réponses?
Aucune. Bah, moi, en fait, il a jamais avoué. Mmh. Il y a des preuves matérielles et des témoignages qui font qu'on est sûr que c'était lui, mais il a jamais reconnu.
Moi, j'ai été condamné pour homicide volontaire. C'était sur mon épouse de l'époque. Et en fait, je pense qu'un procès d'assises, l'ayant vécu, étant dans le box de l'accusé, il faut comprendre que nous, la personne prévenue, on ne pourra jamais vous donner une vérité dans un procès d'assises. Parce qu'on est nous-mêmes conditionnés auparavant, pendant le temps d'instruction, on est conditionnés par nos avocats à ne pas parler. Et c'est ce que je trouve un peu dommage à un procès d'assises, c'est qu'on ne puisse pas vraiment, parce que nous-mêmes, on peut le vivre mal aussi, parce qu'il y a des choses qu'on voudrait pouvoir dire et qu'on n'arrive pas à dire. Donc, et je pense qu'un procès d'assises, les victimes ne pourront jamais avoir de réponse. La cour d'assises, c'est une pièce de théâtre. Mais c'est vraiment une pièce de théâtre, parce qu'en fait, on joue un rôle qui n'était pas forcément le nôtre à la base. Et en fait, t'es tellement... En fait, même quand on est dans la salle derrière qu'on attend, quand tu entends le dring de la sonnette et que tu rentres dans cette pièce la première fois, eh ben, tu te formates, t'es dans un rôle et tu sais que tu ne dois pas sortir de cette oreille-là. Parce que si tu sors de cette oreille-là, ta vie va basculer. C'est-à-dire que moi, pour ma part, j'étais envoyé aux assises pour homicide volontaire et entraîné la mort. Et je savais que si je parlais plus, il y avait requalification en assassinat. Assassinat veut dire pas la même peine. Et donc, en fait, on est coincé entre ces deux eaux-là. Et l'avocat, il est là, non, surtout, tu dis pas ça, tu dis pas ça, tu dis pas ça, t'en parles pas. Donc, en fait, on est tellement conditionné qu'on ne peut pas s'exprimer comme on pourrait le faire en temps normal, en fait.
Lundi 10 mars. En arrivant, je suis fascinée par l'aspect de Yasmina. Elle est maquillée, les yeux et les lèvres, elle porte un pull moulant. Elle a beau m'expliquer que le maquillage est destiné à la convaincre de ne pas pleurer, j'ai du mal à croire que ce soit la seule raison. Elle me dit aussi qu'elle est décidée à parler. Effectivement, dès le début de la séance, elle s'empare de la pierre, on a décidé d'alterner. Je suis bluffée par l'intelligence, aussi bien intellectuelle qu'émotionnelle, dont elle fait preuve pour présenter ce qui pourrait facilement paraître agressif à des détenus qui commençaient tout juste à avoir moins peur. Elle leur dit comment elle peut comprendre que, peut-être, ils ont eu l'impression de ne pas avoir le choix, mais comment elle pense qu'ils ont forcément eu ce choix que seules les victimes n'ont pas. Elle est extraordinairement attentive à ne pas être blessante, à être la moins violente possible. En un mot, elle dit ce qu'elle veut dire, mais elle prend soin d'eux.
Ce qui s'est passé à la première séance, donc après avoir été atterré par le premier crime, on a fait une pause café, on s'est levé, on est allé à une machine à café un petit peu plus loin. Et nous, tous les trois, on était un petit peu en retrait, on n'osait pas. Il y avait Marguerite et Nadège qui essayaient de nous attirer près de la machine à café. Il y a du café, il y a des petits gâteaux. Nous, on n'osait pas, on était dans notre petit coin serré tous les trois l'un contre l'autre. On n'osait pas trop approcher. Et moi, je m'étais accoudée contre un mur, comme ça. Et Roméo, donc le plus jeune des détenus, il est venu carrément me parler en me disant « Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des enfants? Vous connaissez la Guadeloupe ?» Parce que lui, son crime avait eu lieu en Guadeloupe, il habitait en Guadeloupe. Moi, je lui dis « Oui, je connais la Guadeloupe, j'y suis allée, on parle de la Guadeloupe. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu fais comme travail? Tu travailles? T'as des enfants ?» Puis il m'a raconté comme ça, comme une pause café normale entre collègues. Et là, je suis allée me rasseoir, tout était passé. J'ai plus jamais eu peur. J'ai plus jamais été atterrée.
Voilà. Il y en a des tendres et des durs là aujourd'hui. Les tendres, c'est les plus gros. Et les durs, ils sont plus plats. Voilà.
Quelles impressions après cette première demi-rencontre, chacun? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire, sachant qu'il nous reste à peu près trois quarts d'heure là?
Bah moi personnellement, je me sens plus détendue.
Pourquoi?
Bah le fait qu'on se soit présenté, qu'on puisse parler effectivement librement. Je me sens pas oppressée ni mal, un peu tendue, mais pas positivement, on va dire. Déjà, le premier contact avec José, le fait qu'il m'ait expliqué, qu'il ait répondu à ma question sur mes attentes par rapport au procès, j'ai trouvé que c'était... Enfin, déjà, je me suis dit, tiens, déjà une réponse à une question. On approfondira, je pense, mais... Déjà, ça m'a... J'ai aimé qu'on m'explique comment ça se passait de l'autre côté. Voilà.
Je suis frappée de ce que de tous, victimes ou détenus, aucun, hormis Alexandre, est-ce parce qu'il est victime par ricochet, ne parvient à nommer devant les autres l'acte qu'il a subi ou commis.
Moi, je vais répondre. C'est vrai que ton histoire... Tu as parlé que tu as dit ton mari, moi ça m'a ramené tout de suite à moi, ma femme. Donc en fait, c'est ce qui m'a permis de vraiment pouvoir te répondre aussi facilement. Parce que bon, même moi, si j'ai commis cet acte.
Pudeur peut-être.
Mais moi j'ai toujours pas fait mon deuil non plus. Pourtant, je me suis reconstruit entre guillemets. Je me suis remarié, tout ça. Mais il y a cette partie qui est là, toujours là. Donc en fait, moi, je m'endors toujours avec ce... Et même pour reconstruire, c'est difficile. Donc après, c'est vrai qu'avoir la vision de toi de l'autre côté, tu vois, ça me renvoie un peu comme un miroir. Et donc, ça m'a fait du bien, quelque part. Et je t'en remercie.
Alexandre et Marie disent qu'ils ne parviennent pas à voir les détenus comme des meurtriers. Cela les gêne, sans qu'ils sachent très bien dire pourquoi. Ils évoquent un vague sentiment de culpabilité. Yasmina, en revanche, dit qu'elle voit d'abord en eux le meurtrier ou le violeur, avant de voir l'homme, qu'elle les imagine très bien en train d'accomplir le geste criminel.
J'aime pas les longs silences comme ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, même si c'est très difficile. C'est très difficile pour moi de parler, de parler de mon histoire. Je vais venir au fil des séances. C'est bien déjà ce qu'on a réussi à faire les uns et les autres. C'est quelque chose de facile pour personne. Vous disiez que vous avez raconté à beaucoup de personnes votre histoire. Moi, je compte même plus les nombre de personnes à qui j'ai pu le raconter, entre les peut-être 20 CIP que j'ai eu. Les CIP, c'est les assistantes sociales, en gros. Entre tous les thérapeutes que j'ai pu voir, ma famille, mes proches. J'en ai discuté avec ma fille, j'en ai discuté avec ma femme, enfin mon ex-femme. J'en ai discuté avec mes parents.
Marie raconte son histoire.
Il y en aura plus sur les faits après. J'ai fait ce qu'il y a de pire, quoi.
Elle parle des conséquences morales aujourd'hui encore. Elle a peur de tout, alors qu'elle n'avait pas peur avant. Elle ne parle pas du tout des séquelles physiques. Étonnant aussi comment elle parle toujours de son agresseur au présent. Il me fait toujours très peur. Pour moi aussi, ce serait dramatique qu'il récidive. J'ai parfois l'impression qu'elle a oublié qu'il est mort. Vers la fin, Yasmina reprend la parole pour dire que les murs qu'elle a construits autour d'elle depuis sa victimisation sont beaucoup plus épais que ceux de la centrale, mais que c'est parce qu'elle espère les déconstruire qu'elle est là.
Voilà, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement difficile que de m'exprimer tout le temps. Quoi qu'il en soit, que ce soit devant un psy, devant vous maintenant, c'est une épreuve. C'est une épreuve que j'ai décidé d'assumer, d'aller jusqu'au bout, assumer vraiment jusqu'au bout.
Vous avez tendance à dire que c'est difficile. J'ai envie de vous dire pourquoi vous l'imposez, cette épreuve.
On va prendre la parole. Je dirais que j'ai envie de sortir.
Je reviendrai.
Alors moi, je veux dire, quand on dit difficile, moi, personnellement, ça me ramène en arrière. Et ça me ramène à l'acte. Et ça me ramène à la vie que j'ai eue avec. Et d'en parler, forcément, ça te ramène à l'acte en lui-même. Le moment où ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça s'est passé. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à gérer. Psychologiquement, dans sa tête. Quand j'en parle de ma femme, j'en parle toujours, ça me remue les tripes. Et j'évite d'en parler, c'est pour me protéger. Et que je sais que si j'ouvre la boîte de Pandore, c'est ma faille et c'est là où je peux m'écrouler. M'écrouler en prison, je peux pas. Et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé là ? Et c'est pas quelque chose que je me suis pas levé le matin, je me suis dit, tiens, ce soir, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tuer ma femme.
Que ça peut être dangereux, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire n'importe comment, et c'est pour ça qu'on encadre très très précisément les rencontres entre détenus et victimes, et que on ne joue pas aux apprentis sorciers, quoi, on ne tire pas au sort des victimes et des détenus pour les mettre ensemble et voir ce qui va se passer, quoi. C'est pas du tout ça. On laisse le choix aux gens, puis on fait aussi un petit peu confiance en l'être humain. Je crois que ce sont quand même les principaux intéressés, les mieux placés pour savoir si c'est dangereux pour eux ou pas. C'est pas parce qu'on est victime ou c'est pas parce qu'on est détenu que d'un coup on est devenu mineur et que ce sont les autres qui doivent décider à notre place. Il faut juste qu'on les aide en leur disant exactement ce qui peut se passer. Donc, en réalité, la préparation, c'est ça. C'est leur dire tout ce qui peut se passer.
Lundi 24 mars. Premier soulagement, tout le monde est là, contrairement aux prévisions de l'une des victimes la semaine dernière, et Yasmina est toujours maquillée, bien qu'un peu plus légèrement. Le maquillage de Yasmina me sert un peu de baromètre en ce qui la concerne. Au démarrage, je m'arrange pour donner la parole à Marie, qui s'est très peu exprimée la semaine dernière et qui m'a semblé être très mal. C'est facile, son mot de la fin ayant été incompréhension, je démarre là-dessus. Elle explique qu'en fait, elle ne sait plus que et surtout qui y croire, qu'elle ne sait plus si les gens disent la vérité, incluant aussi bien détenus que victimes ou autres participants. Hector lui répond, puis on enchaîne sur une autre question. Damned, ils ont avalé le brûlot sans le digérer, au lieu de le renvoyer et de lui permettre de s'en expliquer. Ma tentative est tombée à l'eau, je crains déjà ce que je découvre plus tard, elle a juste allumé une bombe à retardement. Yasmina raconte comment le compliment d'Hector, renchéri par Robert, lui ont valu 3 jours de treillis Rangers, ce qui constitue pour elle un progrès important dans la mesure où c'est habituellement 1 mois de cette tenue qu'elle s'impose pour chaque compliment reçu. Je suis contente que les détenus s'autorisent à renchérir encore, l'assurant de sa beauté et l'incitant à se réapproprier son corps de femme et sa vie. La discussion est interrompue par un craquage. Elle s'effondre en larmes, demande l'autorisation de s'éloigner et s'enfuit vers les lavabos. Je décide de rester pour gérer le groupe et demande à Marguerite, la seconde représentante de la société civile, de la rejoindre. N'étant pas sûre de la nature du problème, une intervenante féminine me semble plus adaptée sur ce coup-là. À son retour, je décide que c'est l'heure de la pause. Après la pause, j'impose un sujet, le sentiment de culpabilité. Avec le secret espoir que Marie en profite pour s'exprimer, dans la mesure où elle me semble cultiver la culpabilité comme d'autres les mauvaises herbes. Raté, c'est encore Yasmina qui s'empare du sujet, fort bien d'ailleurs, et fait découvrir aux détenus des horizons qu'ils ne soupçonnaient même pas, la culpabilité des victimes. Ils en sont manifestement babas. Du coup, ils en rajoutent une couche sur leur propre et exclusive responsabilité, ce qui ne peut pas nuire. Sauf quand Philippe commence une phrase en expliquant que, comme lui, alors, les victimes n'ont pas eu le choix.
Les premières impressions, comme ça. Vous dormirez mieux ou moins bien la nuit prochaine ?
Pour ce coup, je pense que quelques questions vont remonter. Pour ma part, certaines interrogations aussi. Des choses que j'avais quelque part mis de côté. Donc en fait, ça me renvoie en arrière. Donc voilà. Donc je pense que ça va être un peu plus difficile de s'endormir plus sereinement qu'hier soir. On va dire. Mais je pense que j'ai besoin de passer par là pour ma reconstruction. Puis l'acceptation surtout aussi. Quelque part, c'est la première fois vraiment qu'on est confronté à des victimes. Hormis la période du procès.
Je veux dire, donc, même simplement à des gens de la société civile qui ne soient pas des professionnels de la prison. Quoi.
Parce que quand tu vois des gens au parloir, ça reste proche, ça reste des personnes qui, quelque part, n'acceptent pas ce que tu as commis, mais sont là pour toi, ils n'ont pas le même jugement, on va dire. Moi, ma victime, je ne pourrais jamais savoir ce qu'elle a ressenti, parce qu'elle n'est plus là. Qu'elle était victime. Et elle est encore là pour en parler de ce qu'elle a ressenti. Elle a frôlé la mort. Et cette sensation, c'est peut-être pas la même, mais qui s'approchera le plus de ma victime à moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'étais pas préparé quand même.
Et un mot très fort, c'est que elle est revenue, d'entre les morts, c'est bien ce qu'elle a dit. Elle est revenue de parmi les morts. Et ça, c'est énorme.
Est-ce qu'elle a vraiment cru à un moment donné? Elle avait lâché prise, elle a cru qu'elle allait mourir, c'est ce qu'elle a dit un petit peu, hein, en disant je m'étais adaptée à l'idée que j'allais mourir. Quoi. Je trouve ça extraordinaire que vous ayez au moins cette conscience qu'effectivement vous êtes extrêmement protégée en réalité en prison. Et cette expérience-là, c'est quand même, je pense, pour vous, la première fois que vous êtes confrontée à des gens qui ne sont pas des professionnels, justement, et que vous pouvez confronter à la fois votre personnalité et vos actes à des gens qui ne sont pas des professionnels, donc qui ne sont pas payés pour entendre ça, quoi. Au contraire, puisque ce sont même des victimes.
Débriefing avec les victimes, le brûlot du début ressort enfin via Yasmina et Marie peut enfin expliquer qu'en réalité, ce ne sont pas les autres qu'elle remet en cause, mais sa capacité à elle à faire confiance, ce qui lui pose un grave problème, surtout à elle qui voudrait tellement pouvoir aimer tout le monde.
Oui, je suppose. Je pense qu'il y arrivera tout seul.
En aparté, elle me demande de revoir le psy. Je m'en occuperai dès le lendemain.
Pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez, est-ce qu'on va bien dormir? Moi, j'ai déjà ma psy qui m'attend.
C'est vrai,
ça va commencer comme ça en sortant. Et après, franchement, moi, je sais pas ce que sera ma soirée, mais bon... je me sens pas soulagé pour autant ou quoi que ce soit pour l'instant. Pour l'instant, je suis vraiment dans quelque chose qui est viscéral encore. Et avant que ça se dégage, je crois qu'il faudra plus que les RDV.
Admettre qu'on ne peut pas, qu'on ne comprend pas, c'est aussi un début de réponse. Oui, c'est pas.
Moi, tu vois, j'ai fait sur mes 20 ans de prison, j'ai fait 20 ans de thérapie, quoi. Depuis le début, j'ai eu un psychologue, infirmier psy. Une époque, à Bois d'Arcy, c'est pas difficile, il y avait 3 psys qui me suivaient.
SNPR.
Un psychologue, ouais. Un psychologue, enfin 2 psychologues et un infirmier psy. Pour eux, au début de mon incarcération, de toute façon, j'étais perdu. J'allais me suicider. Je m'en cachais pas, je voulais comprendre et partir. Ça y est, j'ai encore perdu le fil. Hein.
Tu voulais te suicider.
Non, c'était pour rebondir sur ce qu'on disait là.
Tu as commencé en disant ça fait 20 ans d'incarcération, ouais, 20 ans de thérapie.
Voilà. J'ai fini, moi, par avoir les réponses. Les réponses par rapport à mon passage à l'acte, etc.
Maintenant, moi, j'aimerais savoir comment s'est passée la rencontre pour vous.
Très intense, beaucoup d'émotions. Après, j'étais assez étonnée, justement, par notamment José. Je trouve qu'il, même si je pense qu'on développera, il a beaucoup de choses à dire. Il les dit... je suis réceptive, en fait, à sa façon de s'exprimer. Je pense qu'on va beaucoup discuter, je pense. Après, je me rappelle, je crois que c'est Stéphane. Bah, lui, il donne l'impression plus de s'agiter un peu, mais il n'est pas venu effectivement au cœur du sujet. Donc je pense qu'on a des choses à entendre aussi. Et puis, c'est Christophe l'autre. Ouais. Bah, il est un peu dans la réserve, mais en même temps, on sent qu'il a envie de partager, de répondre à nos questions. Donc, j'attends la suite avec impatience. Enfin, je pense que de bonnes choses vont en ressortir, j'espère. Des choses douloureuses aussi. Pareil, je ne me suis pas extrêmement livrée, mais bon, apparemment, il fallait qu'on... Enfin, j'ai l'impression que je n'allais pas y arriver. Mais après ça, je pense que oui. J'arriverai peut-être plus facilement, après cette première rencontre, à en parler moins... avec moins d'émotions, de sang... Enfin, j'espère, en tout cas.
Comment vous allez rentrer chez vous en termes d'état d'esprit, et puis pratique aussi. Mais vous, comment vous vous ressentez? Comment vous allez rentrer chez vous ce soir?
Bah, je pense que je vais me détacher un peu de tout ça et reprendre le cours, ou essayer en tout cas.
Quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de mes jours, je m'endormirai avec la vision que tu as tué ta femme.
Ouais. C'est pas sûr que tout le monde le vive exactement.
Oui, quand je dis moi, je parle pour moi là. Je parle pas.
Ce soir-là, ce mercredi soir, il est resté chez son papa. Je suis partie travailler. Je suis rentrée le lendemain. Et ma sœur m'appelle, me dit, tiens, il y a la police judiciaire qui essaye de me joindre. Je dis, bah, écoute, moi pas. Pourquoi tu m'appelles moi? Je comprends pas. Je savais même pas ce que c'était la police judiciaire. Et ma mère me dit, tu vas rappeler l'école, savoir si Mehdi y est. Ok, j'appelle l'école. Non, Mehdi n'y est pas. Je l'appelle, je tombe sur le répondeur. Un peu énervée, pourquoi Mehdi n'est pas en cours. Bref. La police judiciaire m'appelle. J'attendais impatiemment cet appel. Et on me dit que Mehdi va très bien, bah encore heureux, et qu'il faut venir le chercher au commissariat. Donc là, je pars, très en colère aussi. Je relaisse un message, j'appelle mon avocate. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? J'arrive là-bas, au commissariat, et je dis que je suis attendue. Je croise une dame qui était la nourrice de mon fils, qui me dit, bah, il est mort. Ah bon? Qui est mort? Bah, son papa. Et moi, je crois que c'était son grand-père, en fait, je comprenais pas. Et je commence à réaliser, la dame au fond à l'accueil me dit, venez vous asseoir, il s'est passé un truc là. Bah, je sais pas, non, puis... Et je pleure parce que je commence à comprendre sans comprendre. On vient me chercher et dans l'ascenseur, on me dit « Ah bah, faut pas pleurer hein, parce que Mehdi n'est pas au courant. » Ah bon, d'accord. Alors je sèche mes larmes. Je monte, on me dit « Vous allez le voir, donc il sait pas, donc non, vous, Ah bon, d'accord. Là, on m'amène mon fils, donc je vois effectivement qu'il va bien. Et on me confirme donc que le papa est décédé. Sur le coup, c'est vrai que j'ai pensé à un suicide, parce qu'il n'était pas bien, de la séparation, de tout ça. Et puis, après, on m'a laissé comme ça. On m'a dit, bon, bah voilà, on a fini l'audition. Je suis repartie avec Mehdi, j'étais là au milieu de la rue. Je vais où? Je fais quoi? Je sais toujours pas de quoi il est mort, je comprends rien. Et on a mis 5 ans à savoir qui c'était, donc on a vécu en étant soupçonné, vu qu'on était en conflit. Ma famille, quelques semaines avant qu'on sache qui c'était, la famille, la belle famille avait demandé des recherches ADN sur tous les hommes de ma famille qui ont été faites. Et en fait, on a su que c'était le mari d'une de ses sœurs. Ils étaient comme des frères. Et c'était quelqu'un en qui j'avais confiance, en qui mon fils avait confiance. Et voilà, en gros. Donc procès d'assises qui a suivi, incompréhension, problème de famille. Enfin, ça a été très... Encore aujourd'hui, c'est encore très difficile. On vit un peu caché. On ne donne plus de contact. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi il a fait ça. Pour expliquer comment on vit ça, bah, très mal. Moi, c'est compliqué parce que c'était quelqu'un avec qui je ne m'entendais plus, en qui j'avais de la haine. C'était quelqu'un de violent. Donc aujourd'hui, j'arrive pas à expliquer ce qui me fait souffrir, vraiment. Et mon fils ne connaît pas son papa. Il est déscolarisé. Fait une dépression. Ça fait 3 ans. C'est l'enfer. Je sais pas comment l'aider. C'est très dur pour une maman. D'échouer. On a vu tous les psys. Ça fait 10 ans qu'ils voient des psys. Là, on en voit une nouvelle. J'espère que ça va être... J'arrive pas à voir l'avenir. Pour lui. Moi, ma vie est faite. J'ai refait ma vie. Mais lui, j'ai peur qu'il s'enfonce dans... Dans toute cette tristesse, cette colère et... Et voilà. Et en fait, ce qui me fait le plus souffrir aussi, c'est que déjà mon fils n'aurait pas dû être là-bas. Effectivement, il était sur place. Ça s'est passé aux alentours de minuit. Et... C'est un voisin qui a entendu du bruit la nuit, le lendemain matin, a trouvé la porte ouverte et s'est dit, c'est assez bizarre, il y a eu du bruit, c'était peut-être là. Il est rentré, il a vu le corps par terre. Il a appelé les pompiers, je crois que c'est les pompiers en partant qui ont trouvé mon fils sur le canapé. Il est passé la nuit auprès du corps de son papa, qui dormait dans la peinture rouge. Il n'aurait jamais dû être là. Je sais pas. Je sais pas comment on peut faire ça. Parce qu'a priori, la personne qui l'accompagnait l'a pas redit au procès, mais dans sa première déclaration, a dit que quand il a sorti donc son marteau, qu'il lui a dit « Fais pas ça, il y a mon fils. » Et son fils, c'était son neveu. C'était quelqu'un qu'il allait chercher tous les jours à l'école. Ça faisait 4 ans qu'ils étaient voisins, ils vivaient tout le temps ensemble. J'arrive pas à comprendre. Et voilà, tout ça nous est tombé dessus comme une injustice. On n'a pas choisi tout ça. Je ne l'aimais plus, mais j'ai jamais souhaité sa mort. J'étais prête à... Mais j'étais pas prête à ça. Voilà. Et j'ai toujours vécu l'histoire à travers mon fils. J'ai l'impression que, enfin, pour moi, c'est à lui, s'il arrivait ça à mon fils. J'ai l'impression de le vivre détaché, de le vivre à travers lui, en fait. C'est très bizarre comme. J'ose imaginer que le bout du tunnel arrivera un jour, mais... J'espère pour lui, en tout cas. Si c'est vraiment un garçon... Ma grossesse a été compliquée. Sa naissance a été compliquée. Tout ça, j'ai l'impression qu'il... Enfin, c'est injuste qu'il lui arrive. Vraiment. Il a vécu trop de choses. Voilà. Je m'arrête là.
It is at moments after I have dreamed of the rare entertainment of your arts, when being full to fancy, I have deemed with your peculiar mouth my heart made wise. It is at moment.
Condamné victime, un dialogue possible. Réparer ce qui reste. Avec Nadège Bézard, Mathias Morin, Marguerite, Pascal, Martine, Stéphanie, Pascal, José, Christophe et Stéphane. Merci à l'administration pénitentiaire, à toute l'équipe de la Maison Centrale de Poissy, à l'IFJR, Isée Productions, France Victime et Laurent Benahim. Prise de son, Jean-Marie Porchet, mixage, Éric Boisset, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault.
And silence mold such strangeness as was mine a little while. Moments when my once more illustrious arms are filled with fascination.
LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez revenir sur le passé, bibliographie, lien, nous podcaster pour le parloir ou nous réécouter entre deux rendez-vous, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième épisode, un dialogue possible entre détenus et victimes. Et pendant deux semaines, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur Notre Partenaire, le film de Claudine Bory, Monsieur contre Madame. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission.